Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir
Théo. Je suis ravie d'être encore une fois avec, parmi vous ce soir, parce que ce soir on fait, alors on est bien le 7, hein, oui. Mais on fait une spéciale Saint-Valentin. Alors pour tout simplement parce que c'est la semaine prochaine déjà, donc comme ça vous laissera le temps de faire vos achats et ça vous laissera le temps de concocter un petit peu un apéro dînatoire qu'on vous a préparé sur le thème de l'amour et du romantisme. Voilà, ce sont toujours des recettes simples, faciles à réaliser et on va voir ensemble les différentes recettes et ingrédients dont vous aurez besoin. Alors, j'ai mis un cocktail, j'en ai mis même deux cocktails. Ouais. Un qui est alcoolisé, donc attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc celui-là, il ne fera pas trop de mal à condition de ne pas en abuser. Donc j'ai choisi un cocktail mimosa. Voilà, ça m'a fait penser à un film, je ne sais plus lequel. C'est pour ça que je l'ai mis. Et puis ça m'a fait penser la couleur jaune. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est avec du jus d'orange et c'est loin d'être jaune. Ben ouais, ça m'a fait penser un petit peu jaune, les belles couleurs, les chaudes, le printemps. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager cette recette. Donc pour une dose, donc pour un verre, hein. Donc après, à vous de multiplier par le nombre de personnes que vous serez. Donc on aura besoin d'un crémant ou d'un blanc de blanc ou d'un champagne. Perso, moi je prends un crémant ou un blanc de blanc parce que mélanger du jus d'orange avec un champagne,
c'est gâché.
Mmh. Bon, après...
je suis assez d'accord.
Donc blanc de blanc, c'est bien. Crémant, attention, le crémant que vous allez prendre, parce que si c'est un crémant de Bourgogne... Ça, c'est pareil, c'est gâché. Donc, prenez un petit blanc de blanc, voilà, le petit bas prix. De toute manière, avec le Grand Marnier, vous aurez besoin d'un centilitre de Grand Marnier, de 6 centilitres de jus d'orange, de une cuillère à café de sucre et d'une tranche d'orange et d'un bigarreau pour la déco. Voilà, c'est, on reste dans le rouge, l'orange, le jaune, voilà, un peu sympa. Pour le cocktail non alcoolisé, donc j'ai des gens qui connaissent le Paradise, qui est une boisson alcoolisée normalement, me diront « Ah bah oui, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. » Oui, mais celui-là, c'est sans alcool. Donc, il fait un peu paradis parce que vous allez voir la couleur. On a 8 centilitres de jus d'orange.
D'ananas.
8 centilitres d'orange pressée, j'avais mélangé. 2 centilitres de coulis de framboise. Une cuillère à café de sucre, une tranche d'orange et puis un bigarreau évidemment puisqu'on garde la même déco. Vous pouvez aussi, ceux qui ont pris de l'ananas, du vrai ananas, dans ces cas-là, vous pouvez très bien prendre une petite feuille d'ananas et puis le coller dans la brochette. On y reviendra au moment de l'explication des recettes. Au côté ustensile, on aura besoin d'une flûte à champagne. Gardez la flûte à champagne, même si ce sont des cocktails, je trouve que c'est plus joli. Si vous avez des coupes à champagne, c'est encore beaucoup plus joli, un peu un style triangulaire. Mais vous avez aussi les vieilles coupes qu'on trouve plus, qui sont des coupes plates que nos grands-mères avaient et qu'on a de moins en moins de mal à trouver. De plus en plus de mal à trouver.
Oui,
plutôt.
Qui était en forme de... C'est le sein de qui, déjà ? Je sais que ça a été formé
exact.
Sur la poitrine de je ne sais plus quelle reine.
Voilà, donc on est bien d'accord, c'est un petit bonnet.
Oui, par contre, c'est un petit bonnet.
Voilà. Donc, on recommence avec les ustensiles, donc une flûte à champagne. On aura besoin d'un pot mesureur, d'une cuillère. Alors, une cuillère ou un touilleur, mais voilà. Une petite assiette, des cure-dents en bois, ça c'est important. Un blender ou un mixeur et un couteau. Donc pour les deux cocktails, vous aurez besoin de seulement ces ustensiles-là. Ensuite, on partira sur des palmiers. Moi, j'ai palmiers, cocotiers, enfin voilà, j'ai un peu mélangé. Puis les palmiers sont en forme de cœur.
Oui, c'est vrai.
Ça ressemble à un cœur. Donc, je trouvais qu'un palmier au jambon et fromage, donc j'ai fait au plus simple. Donc, avec un rouleau de pâte feuilletée, 4 tranches de jambon et puis 100 grammes de gruyère râpée. Alors, je ne voulais pas mettre une demi, mais pour deux, ça, c'est largement suffisant. Donc, l'idée, c'est de le faire pour un rouleau complet. Et ce qui vous reste, vous pouvez le congeler. Oui. Donc ça, je reviendrai là-dessus. Les ustensiles, ben, un plat de présentation, un couteau, un film plastique, une feuille de papier cuisson et une plaque allant au four. Ensuite, on va faire des dips de betterave ou mousse et des chips de patates douces. Voilà, donc c'est assez exotique. On a encore le orange, le jaune, enfin pas l'orange.
Un peu rose de la patate douce.
Ouais. Alors, la patate douce est légèrement jaune.
Jaune-orange,
jaune-orangé. Ouais. Et on va avoir de la betterave qui va être mélangée au houmous, qui va donner un petit rose pâle. Voilà, donc on est toujours dans le romantisme, dans la gaieté. Il faut que ça soit joli à l'œil. Si c'est joli à l'œil, c'est joli dans l'estomac. C'est ce qu'on dit. Et vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'une boîte de conserve de pois chiches, de 2 citrons, de 2 gousses d'ail, de 3 cuillères à soupe de tahiné. Alors le tahiné, c'est la pâte de sésame. On verra, Nathalie nous expliquera où est-ce qu'on peut, ce que c'est exactement. On peut la trouver dans les épiceries bio ou dans les épiceries orientales. Donc la pâte de hiné, ou c'est tout simplement la pâte de sésame. Voilà. On vous expliquera tout à l'heure comment c'est fait. On aura besoin de poivre du moulin, et puis du sel. Et puis 125 g de betterave, 150 g de houmous. Ça, c'est pour la deuxième recette, parce que dans une recette, vous en avez deux, en fin de compte. Voilà, donc j'ai voulu mettre les deux configurations. Et puis 200 g de patates douces. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une casserole, d'un couteau, d'un presse-agrumes, d'un chinois, d'un écumoire, je ne sais plus comment on dit, d'un saladier, d'un mixeur, d'une cuillère, d'un hachoir, d'un économe. Voilà, donc ça, c'est pour la vaisselle. Et puis, on finira pas, parce qu'on a encore deux petites pièces au niveau du salé. Donc, la verrine de foie gras et aux pommes et au pain d'épices. Vous allez voir, c'est super bon, ça. Vous aurez besoin d'une tranche de pain d'épices, d'un petit peu de beurre, d'une demi-cuillère à soupe de sucre, d'une pomme type golden, d'une tranche de foie gras et d'une cuillère à café, de 2 cuillères à café de confit d'oignon. Alors, vous pouvez remplacer, si vous trouvez, parce que c'est pas souvent qu'on trouve, c'est le gelée de Gewürztraminer ou de Riesling. Donc le Gewürztraminer et le Riesling, ce sont des vins alsaciens. Voilà, ou alors vous rajoutez un petit peu de la gelée de vin blanc. Ça existe, il faut le savoir. Moi, franchement, j'aime bien le confit d'oignon, parce que ça fait un goût supplémentaire. Voilà, et puis ça fait un petit peu un sucré salé, ce qui va bien avec le pain d'épices. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une casserole, d'un couteau, d'une cuillère, d'un économe, de 2 verrines et d'une poêle. Donc ça, c'est que pour une personne, pour 2 personnes, on est bien d'accord.
Oui, c'est pour 2 personnes. Hein. Voilà, ça fait 2 petites verrines, quoi.
Ça fait 2 belles verrines, hein, parce que tu mets une pomme dans une verrine, elle ne tient pas. Hein. Ça dépend de la grosseur de ta verrine, c'est toujours pareil.
Là, c'est une pomme pour 2 verrines, donc c'est une demi-pomme. Une belle verrine, tu as raison.
C'est fait une belle verrine. Hein. Si tu rajoutes le foie gras, tout dépend. Si ta tranche de foie gras, elle fait 100 grammes, je peux te garantir que c'est carrément un gobelet, hein, que tu mets. Hein, c'est... Bon, après, c'est à vous de voir. Faites ce dont... Alors, si vous n'avez pas de verrine, vous pouvez prendre des un joli verre, mais pourquoi pas mettre dans des verres à pied, pourquoi pas les mettre... Essayez, vous avez certainement des contenants qui sont très jolis et bien décorés, ça passera tout seul. Ensuite, on fera, comme on a fait un petit peu de foie gras, on va venir un petit peu avec une verrine d'avocat et de crevettes. Donc, on a besoin d'un avocat bien mûr, de 6 crevettes moyennes décortiquées. Alors, je dirais que 4 uniquement, 4 crevettes décortiquées. Et les deux autres, on les gardera, je vous dirai ça pendant la recette. Si vous les avez toutes décortiquées, c'est pas grave, le décor sera tout aussi joli. Un demi-citron vert, un fromage frais type carré frais ou autre chose. Ça doit faire à peu près 50 grammes en tout. De la crème fraîche et de la ciboulette. Fraîche, bien évidemment. Moi, j'aime pas trop les ciboulettes un peu sèches. Enfin, je trouve que
Il y en a en
surgelé. La petite astuce, c'est que vous l'achetez en frais, vous la ciselez, donc vous la coupez, vous la mettez dans un tupperware au congélateur et ça ne bouge pas. Voilà. D'accord. Il faut, si vous la lavez, bien la sécher parce que.
Oui, c'est ça, sinon ça va cristalliser.
Sinon, ça va cristalliser, ça va se bloquer entre elles. Donc, l'idée, c'est vraiment
de bien la sécher.
De bien la sécher. Vous faites la même chose pour le persil, la même chose pour le basilic, la même chose que pour toutes les herbes. Il faut les prendre quand c'est la saison, donc c'est plutôt en été. Et puis, mettre au congélateur pour l'hiver. Comment faisaient nos anciens?
Moi, j'essayais avec de la menthe, mais elle sort, elle est marron.
Pas moi.
Ah bon?
Non. Tu laisses les branches dessus?
Oui.
Enlève les branches.
D'accord.
Voilà. C'est l'un ou l'autre. Mais si tu veux la menthe, c'est pas bien grave si elle est marron. C'est pas bien grave.
Oui, je trouve qu'elle a moins de goût quand même.
Ah non. Quand tu fais un tel menthe avec... Non, c'est bon. Écoute, c'est une question de goût. Et puis, c'est une question aussi de qualité de la menthe. Et de la fraîcheur de la menthe.
C'est celle que j'ai dans mon jardin. Donc, elle est fraîche.
Donc, enlève les feuilles, tu verras bien.
J'ai essayé.
Essaye. Tu peux aussi... Alors, tu t'en sers pour cuisiner?
Oui, c'est pour faire des taboulés.
Alors, si tu t'en sers pour cuisiner, dans ces cas-là, enduis-la d'huile.
D'accord,
voilà,
ça va protéger.
Ça va la protéger. Pour les ustensiles, on aura besoin d'un bol, d'un couteau, d'une cuillère, d'une verrine et d'une
deux verrines
et d'une fourchette. Et puis les deux desserts, on va faire une verrine mangue coco. Donc pour ça, vous aurez besoin de 20 g de sucre en poudre, d'un centilitre de lait de coco, de 80 g de mascarpone, d'un jaune d'œuf, d'une demi-mangue, de 2 palets bretons ou d'un biscuit, peu importe, mais un biscuit assez riche. Et puis une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Et puis on va faire une deuxième verrine en sucré. Ça sera la verrine de clémentine. C'est la pleine saison en ce moment des clémentines, donc au chocolat et spéculoos. Et là, on aura besoin de 50 g de chocolat pâtisserie, d'une cuillère à soupe de crème fraîche, d'une clémentine, de 2 spéculoos, d'une cuillère à soupe de fromage blanc ou de chantilly. Pour les ustensiles, vous aurez besoin, pour ces deux verrines-là, une casserole, un bol, un couteau, une cuillère, deux verrines, 4, c'est mieux, puisque c'est... c'est deux chacune, et puis une cuillère en bois, un fouet et un économe. Alors, il faut savoir que quand on fait la règle d'un apéro ou d'un cocktail, il faut savoir que c'est 8 à 10 pièces par personne en salé sucré.
Donc, Tout confondu. Oui, d'accord.
Donc moi, j'ai fait à peu près, je ne sais plus, 4-5. J'ai fait quand même léger, il ne faut pas non plus. Et on a quand même un cocktail qui est aux fruits, qui est riche, donc, et qui risque... comme c'est avec des jus de fruits qui risquent de tasser. Donc, vous ne finirez pas. Donc, le mieux, c'est de prendre 6-8 salés sucrés, comme je l'ai fait. Voilà. Et avant toute description, je pense qu'on va vous proposer, on vous propose une pause. Et puis, On se retrouve pour les explications.
Ah oui.
Bah, on a envie.
Salut, c'est Ginza sur
Infini Radio.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici donc sur l'émission spéciale Saint-Valentin et on a préparé donc un apéro dînatoire. Alors j'aimerais bien Nathalie que tu nous dises un petit peu l'origine de l'apéro.
Oui, alors c'est un apéritif ou familièrement appelé un apéro, c'est une boisson servie avant le repas dans certaines cultures, ça afin d'ouvrir l'appétit. L'apéritif est souvent bu après avoir trinqué, selon la tradition, sont choisies en général des boissons à base de plantes, connues pour leurs vertus apéritives comme l'anis ou la gentiane. L'apéritif désigne, l'apéritif désigne par extension la collation qui peut précéder le repas. Cela englobe alors les amuse-gueules ou les amuse-bouches, parmi lesquels les plus classiques sont les pistaches, les chips ou les cacahuètes. Et par extension, l'apéritif s'applique à tous les aliments, petits gâteaux, les apéritifs dînatoires, une sorte de petit plat pour accompagner le verre, des fruits découpés, des olives, de la charcuterie, des tapas, du fromage et autres assortiments variés qui sont servis en accompagnement de cette boisson, ce qui correspond au concept de tapas, qui est un apéritif espagnol, et à celui de zakouski russe. Par extension, l'apéritif désigne en français le moment de convivialité, le lieu de sociabilité où des personnes se retrouvent pour consommer ces boissons et ces aliments en discutant, sans même qu'il soit prévu de prendre un repas en commun ensuite. À ce titre, l'apéritif est aussi un repas léger où peuvent également être consommés des cocktails. On le qualifie souvent dans ce cas d'apéritif dînatoire.
Et voilà, donc c'est bien par rapport à ce que ce soir, parce
exactement.
Qu'on va commencer donc notre apéro dînatoire donc par un cocktail avec ou sans alcool. Alors je vous rappelle un petit peu les ingrédients pour ces deux cocktails. Donc on aura pour une dose, hein, donc c'est un verre, c'est du crémant ou du blanc de blanc et ou du champagne. Donc, comme je vous ai dit en début d'émission, évitez bon, le champagne. Après, c'est vous qui voyez, c'est par rapport à ce que vous avez. Mais n'allez pas claquer beaucoup d'argent dans un champagne. Prenez un petit champagne.
Le premier prix
de blanc de blanc. C'est toujours en vin pétillant. Hein, on est en méthode champenoise. On aura besoin donc... de 1 centilitre de Grand Marnier et de 6 centilitres de jus d'orange. Ensuite, une cuillère à café de sucre, 2 tranches d'orange, 2 bigarreaux donc pour la déco. Pour l'autre cocktail, on aura besoin de 8 centilitres de jus d'orange, 8 centilitres de jus d'ananas. On va avoir besoin de 2 centilitres de coulis de framboise, de 1 cuillère à café de sucre et puis pour les ustensiles, évidemment 2 coupes à champagne ou un verre ou mais un joli verre quoi. Choisissez pas un gobelet ou un truc comme ça. Vraiment un joli verre, même maintenant vous avez des verres qui sont un petit peu tordus au niveau de la forme, en forme de tulipe. Bon, faut que ce soit aussi qu'on puisse boire dedans, hein, on est bien d'accord. Donc je continue dans mes ustensiles, un pot mesureur, une cuillère ou je vous disais une touillette, une petite assiette, 2 cure-dents et puis un blender ou un mixeur et un couteau.
Je peux juste te poser une petite question.
Dis-moi.
Parce que ça fait plusieurs jours que je me pose la question. Les bigarreaux, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, les bigarreaux, ce sont des cerises confites.
Enfin, je disais que je ne savais pas, mais j'avais un gros doute.
Voilà, oui, bigarreaux, c'est des cerises confites.
Oui, c'est une sorte de...
Et c'est pas une sorte, c'est des cerises confites.
Il faut qu'elles soient confites.
C'est mieux.
Oui, mais sinon, il existe une variété de bigarreaux en
oui,
cerise.
Oui, mais tu vas pas les trouver. Hein,
non,
c'est
d'accord.
C'est pas la saison.
Là, elle sera
confite. Donc oui, j'ai oublié de préciser, mais ayez toujours une petite boîte de bigarreaux dans votre cuisine. Même ouvert, ça se conserve très bien, parce que de toute manière, c'est dans le sucre.
Oui.
Vous pouvez les mettre dans les desserts, vous pouvez les mettre en apéro, vous pouvez les mettre en déco. Enfin, vraiment, ça, c'est comme le vermicelle de la semaine dernière. Il faut tout le temps en avoir. Voilà, c'est des choses incontournables.
Indispensables à la cuisine.
Oui, enfin bon, moi j'ai toujours des petites bricoles pour décorer, des choses comme ça qui peuvent servir. Alors, on va déjà préparer une petite assiette sur laquelle vous mettrez vos petites brochettes, hein, puisque les cure-dents vont servir pour les brochettes, qui nous serviront en dessert, en déco. Donc on va prendre les cure-dents en bois, donc les petites brochettes, et puis on va trancher une tranche d'orange et on va la couper en quatre. Alors, moi j'aime bien, je la coupe en quatre et je prends la pointe du quart de l'orange, je mets ma brochette et je vais au centre de mon arrondi. Donc, ça me fait une espèce D'accord. de flèche.
Okay.
Donc, je mets mon bigarreau entre les deux morceaux d'orange. Voilà, donc ça me fait une brochette. Vous pouvez mettre tremper votre quartier d'orange dans le sucre à recto verso, et puis vous le mettez au frais et ça ne bouge pas en attendant de servir. Voilà. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous mettrez par-dessus le verre. Ça fait toujours joli. Alors, vous pouvez y rajouter des feuilles. Vous pouvez rajouter en ce moment, qu'est-ce qu'on a comme feuille qu'on pourrait mettre dedans, qui ne se mange pas, hein, mais juste en déco. Une feuille de laurier. Vous pouvez, alors, pas le laurier rose, hein.
Oui, le laurier, c'est nocif, le laurier rose.
Pas le laurier rose, ni le laurier blanc, celui qui est en ce moment est en floraison. Voilà, trouvez une feuille, c'est juste pour la déco. Si vous avez une feuille d'ananas, bah, c'est encore plus joli.
Oui.
Vous la coupez au niveau du bout, pas de la hauteur, mais du bout. Oui, du bout, vous la coupez en deux et vous la mettez entre la paroi du verre. Voilà, ça fait super, super joli. Voilà. Soyez créatifs et inventifs. Donc, on va passer au cocktail. Alors, rien de plus facile. Donc, directement dans la flûte pour le premier, donc pour le cocktail mimosa, pour le premier, on va verser le Grand Marnier dans un premier temps. Ensuite, on va verser le jus d'orange, que vous aurez pressé ou pas. Hein, ça dépend ce que vous avez sur la main, mais moi, je préfère un jus d'orange pressé. Et puis, on va compléter avec la méthode champenoise, donc le blanc de blanc ou le crémant ou le champagne. Et on va le mélanger délicatement. Vous pouvez très bien ne pas mélanger et ça va vous faire des hauteurs des différentes couleurs.
Ouais.
Des différentes couleurs. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien mélanger. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez, c'est un cocktail qu'on... Alors, c'est au dernier moment. Hein, on sert pas, on prépare pas ça à l'avance, parce que sinon toutes les bulles vont partir. Contrairement au deuxième cocktail, le paradise sans alcool, que l'on peut lui préparer à l'avance et qui vaut mieux préparer à l'avance, puisque là on va mélanger dans un robot ou dans un blender ou dans un mixeur le jus d'orange.
Le jus d'ananas
pressé et avec le coulis. Ça va faire une couleur uniforme, donc, et ça, on le met au frais. Et ça sera bien meilleur frais et tout de suite, fait à l'avance, surtout. Voilà, donc, et puis au moment de servir, bah, vous rajouterez sur votre verre une petite brochette. Et si vous avez mis... que vous aviez mis au frais. Et puis, je vous donne une petite astuce aussi pour les verres. En fin de compte, que j'ai oublié de vous dire, moi, ce que je fais, c'est que mes verres, avant de les remplir, je les trempe un peu dans le jus d'orange ou dans le jus de fruits, peu importe. Hein, et je les trempe dans le sucre. Ça me fait un rebord cristalline. Si en plus vous avez un sirop de couleur, genre de la grenadine, parce que c'est rouge, et ben vous le trempez d'abord dans le sirop et vous le trempez ensuite dans le sucre et ça vous fera votre déco encore plus jolie. Ça fait un effet givré, ça fait un peu sympa. Voilà. Je vous rappelle quand même que l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Mais Nathalie, en parlant de cocktails, j'aimerais bien que tu éclaires nos lanternes sur l'origine des cocktails.
Oui, le cocktail, c'est une boisson obtenue par mélange de plusieurs ingrédients, dont au moins une boisson alcoolisée ou pas, ou spiritueuse. Le mélange peut contenir une ou plusieurs autres boissons alcoolisées, des jus de fruits, des sirops, des sodas ou de l'eau gazeuse, mais aussi du café, de l'eau chaude, des œufs ou de la crème. Les cocktails sont préparés individuellement avec de la glace dans un shaker, un verre à mélange ou directement dans un verre à cocktail et servi. En général, chaque recette de cocktail porte un nom mémorable. Certains sont connus internationalement et sont élaborés par des bartenders du monde entier. Le mimosa aurait été créé à l'hôtel Ritz de Paris par Frank Meyer vers 1925. On en trouve trace dans le livre de 1936 The Artistry of Mixing Drinks du même Frank Meyer. Son nom proviendrait de la ressemblance entre la couleur et la texture de la boisson et celle de la fleur du mimosa des fleuristes. Le Paradise est la plus ancienne recette connue de ce cocktail, est écrite et probablement créée par le célèbre barman anglais Harry Craddock dans son livre de référence de 700 recettes de cocktails, The Savoy Cocktail Book de 1930, alors qu'il est chef barman durant 20 ans, donc de 1925 à 1945, du célèbre bar à cocktail American Bar du prestigieux palace, l'Hôtel Savoy de Londres, au Royaume-Uni.
Merci Nathalie. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire quelques cocktails avec ou sans alcool, ben voilà, vous pouvez trouver plein de bouquins qui vous en donnent différents. Et puis pour ceux qui aiment le net, ben vous pouvez aussi trouver sur le net plein de cocktails. Eh bien écoutez, je vous propose de poursuivre cet apéro dînatoire, mais spécial Saint-Valentin, mais juste après cette pause. À tout de suite.
So much up, wait, but you're making it hard to let go when I feel the same way. You got me so hooked up till I heard about other girls. When I ask you what's the purpose, you say you have a bad obsession, and you know thought you had something special. You know different. Tell yourself it's not your fault, it's your accent.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et pour la suite, ben, nous allons poursuivre avec les palmiers. Et je pense que Nathalie, tu as une origine sur le palmier.
Oui, parce que le palmier à l'origine, c'est une viennoiserie à base de pâte feuilletée, très longue, repliée en forme de cœur, largement saupoudré de sucre qui caramélise à la cuisson. Il est fait d'une double roulade de pâte coupée en tranches, ce qui lui donne sa forme caractéristique évoquant le feuillage du palmier. Le palmier existe sous forme de gâteau individuel ou de petits fours secs en accompagnement de glace et des entremets. En Suisse romande, le palmier est connu sous le nom de cœur de France. De nos jours, il n'est pas rare de voir plusieurs variantes du palmier, surtout en pièces salées, comme ce soir, pour les apéros.
Merci Nat. Alors justement, on va voir ensemble les explications de cette recette. Mais je vous en rappelle d'abord les ingrédients et les ustensiles. Donc il nous faudra un rouleau de pâte feuilletée, 4 tranches de jambon. Blanc, c'est mieux. 100 g de gruyère râpée. Et côté ustensile, il vous faudra un plat de présentation, un couteau, un film étirable, une feuille de papier cuisson et une plaque allant au four. Alors, il n'y a rien de plus simple pour ce genre de recette. Toutes les recettes que je vous dis ce soir, c'est à peu près 15 minutes. Voilà, grosso modo, il y en a qui durent 2 minutes, il y en a qui durent 15 minutes, c'est le maximum, c'est le maximum. Donc on va déjà dérouler notre pâte feuilletée et puis on va la recouvrir tout simplement des 4 tranches de jambon et puis du gruyère. Et ensuite, on va rouler sur elle-même jusqu'à la moitié. Donc là, ça vous fait comme un petit escargot. Et faire la même chose de l'autre côté. Et vous avez donc par le milieu, les deux côtés doivent se rejoindre. Donc vous le placez le tout dans un film étirable et vous le mettez 10 minutes, une dizaine de minutes au congélateur de façon à ce que ça puisse durcir la pâte et que ça soit plus facile à découper. Donc au bout de ces 10 minutes-là, vous allez les découper avec en petites lamelles. Vous allez les mettre à cuire et vous les disposez sur une plaque allant au four recouverte de votre papier cuisson et vous enfournez 15 minutes. Alors à surveiller parce que tout dépend de l'épaisseur que vous avez fait. Donc 15 minutes à 200 degrés. Ça peut se manger ou chaud ou froid, c'est comme vous le souhaitez. Surveillez bien vos palmiers car ça dépend du four. À 200 degrés, ça va relativement vite. Donc moi je dis entre 10 et 15 minutes. Voilà. Et puis vous servirez ça sur un joli plat et puis vous aurez un succès garanti. Alors, vous pouvez aussi remplacer le jambon par du saumon fumé, tout simplement. Voilà, c'est à vous d'innover et d'être créatif par rapport à ces palmiers. C'est déjà la recette est déjà terminée.
Ça va très très vite.
Ça va très très vite hein, de toute manière. L'idée c'est aussi de faire une petite pointe quand les escargots, le palmier est formé. Faites une petite pointe pour que ça ressemble vraiment à un cœur.
Un cœur, ouais.
Vous épaterez votre amoureux ou votre amoureuse. Ça sera encore plus joli. Alors pour les deuxième recette, enfin pour la recette suivante plutôt, on va continuer par le dip de betterave et houmous. Donc je vous rappelle les ingrédients. On a besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'une boîte de conserve de pois chiches, de 2 citrons, de 2 gousses d'ail, de 3 cuillères à soupe de tahine. Donc je vous rappelle que c'est de la pâte de sésame. Et puis un moulin à poivre, 125 g, et puis du sel bien évidemment, 125 g de betterave cuite. J'ai oublié de le préciser, mais c'est cuite.
Après, on peut toujours la faire cuire, mais c'est très long.
Oui, mais tu peux le faire cru aussi, mais la texture va pas être la même.
Ça aura plus goût de terre quand même.
Non, si elle est bien épluchée, bien brossée, je te garantis qu'il n'y a pas goût de terre.
Ah bon?
Donc, non, du tout. Du tout.
Bon, après, ce sont les goûts.
Il faudra qu'un jour je te fasse goûter ça, Nathalie, parce qu'il y a les gens qui ont cette. Effectivement, moi j'ai goûté un mets à base de betterave, on sentait la terre. Et même c'était de la soupe à la betterave et là vraiment on sentait la terre. Ça c'est une anecdote que je raconte souvent, mais ça sera pour une autre fois. Mais une betterave qu'on utilise, qu'on cuit ou qu'on ne cuit pas, qu'on mange crue ou cuite, ça ne sent pas la terre à partir du moment où elle a été correctement lavée et qu'elle a été brossée et épluchée correctement. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc 125 g de betterave, 150 g d'houmous, du sel et puis 200 g de patates douces. Côté ustensile, on aura besoin d'une casserole, d'un couteau, d'un presse-agrumes, d'un chinois, d'un écumoire, d'un saladier, d'un mixeur, d'une cuillère et puis d'un hachoir et d'un économe. Alors déjà, puisqu'on va avoir besoin pour la seconde recette du houmous, donc on va commencer par le houmous. Donc déjà, opération la plus délicate de cette recette, c'est d'ouvrir la boîte. Vraiment, c'est très délicat, il faut faire attention à ne pas se couper. Et puis on va verser le tout, donc
avec,
la boîte,
avec le jus,
dans une casserole. On va porter à ébullition et puis en attendant que ça chauffe, on va éplucher deux gousses d'ail et puis les hacher. On va presser aussi les deux citrons et on enlèvera la pulpe et ça vous le faites avec un petit chinois, hein, la pulpe et les pépins bien évidemment. Et puis une fois que ça bout dans votre casserole, vous la retirez du feu et avec un écumoire, vous récupérez les pois chiches. Et les pois chiches, on va les mettre dans un mixeur avec l'ail. Et puis on va mixer. On va ajouter le citron, le jus de citron qu'on a fait tout à l'heure, l'huile d'olive et là, les fameuses tahinées. Et on va bien mixer. Il faut que vous ayez une pâte bien homogène. Alors les pois chiches, c'est un petit peu sec. Donc vous n'hésitez pas à goûter. Vous ajoutez un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc ça, c'est évident. Si vous voulez en rajouter, selon votre goût, vous le faites. Vous continuez à mixer les ingrédients. Et puis, vous allez ajouter petit à petit le jus de cuisson. Vous savez, le jus qu'on a mis dans la casserole, le jus des pois chiches, on va le rajouter petit à petit.
Pour réhumidifier la pâte,
en fin de compte, pour que la pâte soit moins compacte. Et donc, à chaque fois, pas à chaque fois, mais vous allez vérifier. En fin de compte, quand vous passez votre cuillère dedans, il faut que les marques doivent s'estomper.
D'accord. D'accord. Faut pas que ça laisse un trou, en fait. Faut que ça referme.
Voilà. Ouais. Si ça fait ça, c'est que c'est bon. Parce que en refroidissant, ça va se raffermir. Donc, et vous laissez par contre 2 heures au frigo. C'est mieux. Donc, ça, c'est une première recette. Donc, ça, c'est ma petite recette, d'accord. C'est pas forcément, elle est pas forcément très très traditionnelle, mais c'est la mienne. L'astuce des pois chiches, le mieux c'est de les mixer à chaud et à sec, de façon à ce que l'ail puisse fondre dans les pois chiches. Voilà. Pour la consommation, en général, on met un petit peu dans une assiette et puis on fait un petit trou. Vous savez, et dans ce petit trou-là, on va le mettre de l'huile d'olive. Et puis, on trempera les chips de patates douces un petit peu dans l'huile d'olive, un petit peu dans le houmous, et on portera la bouche pour le manger. Voilà, ça c'est un... Après, vous faites comme vous voulez, hein. Il y en a qui raclent, voilà. Donc, pour poursuivre la recette, on va continuer avec le dip de betterave et houmous. Donc, on met la betterave et 150 g de houmous qu'on a préparé avant.
Mais la betterave en petits cubes, non ?
Tu la mets en gros morceaux. On est dans un mixeur, donc ou dans un robot. Donc, alors, il faut pas non plus mettre la betterave entière. sinon, vous allez bousiller votre mixeur. Et il faut rappeler que la betterave étant cuite, elle est molle. Elle est vraiment bien molle. Donc, il n'y a pas besoin de la couper. Vous la coupez en 4 suivant la grosseur. Et puis, on va mettre aussi dans le robot le 150 g donc, qu'on aura prélevé de la petite préparation. Alors, le reste qui vous reste de houmous, eh ben, vous le mettez dans un joli bol et puis vous faites mon fameux trou avec de l'huile d'olive au moment de servir. Et puis, on va mélanger pour obtenir une pâte avec la betterave et le houmous. On va ajouter un petit filet d'huile d'olive, un petit tour de moulin à poivre. Et voilà, c'est prêt. Voilà, vous avez, donc là, vous pourrez l'accompagner de chips de patates douces que vous allez tremper dans vos préparations. Alors justement, ces patates douces, alors rien de plus simple. Vous vous rendez compte qu'en 5 minutes, on aura fait 3 recettes quand même. Hein, ouais. Donc rien de plus simple pour les patates douces. Vous les épluchez, donc vous les lavez bien, vous les épluchez, vous les coupez et vous les mettez en fines lamelles. Donc vous avez des... Alors moi je me sers de la mandoline, vous faites mal, vous faites
attention aux mains.
Voilà, faut les couper très minces et vous pouvez, pour éviter, si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez faire un économe. Un économe, c'est super simple. Surtout vous les rincez et vous les séchez. Vous faites chauffer votre huile. Alors ça peut être pas forcément dans une friteuse, ça peut être aussi dans une grosse, dans une casserole ou dans un wok, enfin peu importe, d'un récipient ou d'une une casserole. Et puis vous mettez vos rondelles de patates douces à cuire. Et quand elles remontent, ça veut dire à la surface, ça veut dire qu'elles sont cuites. Donc vous les faites égoutter, vous les prenez avec un écumoire. Vous les faites, vous les mettez dans du papier absorbant. Vous les salez et aussitôt vous les servez. Voilà, vous pouvez les servir chaudes ou froides, c'est comme vous voulez. Voilà, on a fait... nos dips, on va pouvoir tremper. Et ben, moi, je vous propose une pause musicale et on se retrouve cette fois-ci pour les verrines.
Salut, c'est Jade Anaé sur Infini Radio.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Nous revoici. On était en train de parler tout à l'heure du houmous et puis de la pâte de tahiné. Donc Nathalie, quelles sont leurs origines?
Alors c'est le tahiné ou tahin ou tahina ou tehina ou tahiné, comme tu le dis. C'est une crème de sésame qui est la préparation orientale faite à partir de graines de sésame broyées avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte lisse Le tahini est très riche en calcium et en phosphore, mais il apporte 590 calories au 100 grammes. Il a un goût de noisette et c'est un condiment très employé dans la cuisine orientale. Il s'utilise dans l'houmous, le baba ganoush, les brochettes, les sauces, le pain, le halva et les gâteaux. Il se prépare aussi en trempette pour dessert en le mélangeant avec de la mélasse, du mekmez et ou du miel, ou même, et ça c'est à Montréal, du sirop d'érable, ou alors en Libye, du sirop de datte. En Extrême-Orient, on utilise une pâte très proche, faite de sésame pur ou d'un mélange de sésame et de cacahuètes. Cette pâte est utilisée en Chine dans différents plats comme la fondue chinoise. Le houmous, lui, ou hummus en arabe, hummus est une préparation culinaire du Proche-Orient, composée notamment de purée de pois chiches et de tahini, donc la fameuse purée de sésame. Il s'agit d'un plat typique de la cuisine arabe, arménienne et levantine. Le pois chiche sauvage est endémique au croissant fertile et sa culture a donc commencé dans cette région. Les plus vieilles preuves archéologiques de la domestication de cette légumineuse sont datées à 9900 à 9500 ans avant le présent. Les premières mentions du plat datent du 8e siècle avant Jésus-Christ en Mésopotamie. La forme moderne de l'houmous serait apparue dans l'Empire ottoman durant le 15e siècle. Le pays d'origine du houmous est donc inconnu, mais au moins 8 pays sont candidats. Le Liban, la Palestine sont les plus actifs sur le sujet, mais également la Grèce, la Turquie, la Jordanie, la Syrie et l'Égypte. La guerre du houmous est régulièrement relayée par la presse. Elle est également exportée pour être consommée en Europe ou en Amérique.
Ben merci Nathalie, une belle parenthèse quand même. Donc on ne sait pas l'origine exacte, voilà, on suppose. On ne va pas rentrer dans ces détails de guéguerre. Donc on continue notre apéro dînatoire par deux verrines. Donc une verrine au foie gras, pommes et pain d'épices. Alors je vous rappelle les ustensiles, on aura besoin, les ingrédients, on aura besoin d'une tranche de pain d'épices, d'un peu de beurre, d'une demi-cuillère à café à soupe de sucre, d'une pomme type golden, d'une tranche de foie gras, de 2 cuillères à café de confit d'oignon. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez le remplacer par une gelée de Gewürztraminer ou de Riesling ou encore de vin blanc. Côté ustensile, une casserole, un couteau, une cuillère, un économe et 2 verrines et une poêle. Allez, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, on va éplucher la pomme, la couper en lamelles et la faire revenir à la poêle dans du beurre environ une 20aine de minutes. Et puis, on la saupoudra de sucre, d'une cuillère à soupe de sucre et bien mélangée. Une fois que c'est cuit, au bout de 20 minutes, on laisse refroidir et on va s'occuper de tranches de foie gras qu'on va mettre en petits copeaux, donc en petits carrés. Et puis, quand les préparations sont bien froides, donc quand vos pommes sont bien froides, eh bien, on va mettre une couche de pommes refroidies. Le foie gras, donc en copeaux, vous mettrez une demi-tranche donc, que vous aurez émiettée et vous mettrez la cuillère de confit de confit d'oignon que vous avez. Et voilà, la verrine, elle est prête. Et vous mettez ça au frais avant de la déguster. Vous voyez, c'est pas très compliqué. En 5 minutes, c'est prêt. Enfin, vous comptez 20 minutes de cuisson au niveau des pommes. Mais vous pouvez très bien le mettre sans la cuire, la pomme. Ça, c'est au choix. Moi, je préfère quand elle est un peu caramélisée. Pour la deuxième verrine, donc celle qui est à l'avocat, le crevette, c'est tout toujours aussi simple. Donc, vous avez besoin d'un avocat, de 6 crevettes, de demi-citron, d'un fromage frais à peu près 50 grammes, de la crème fraîche, de la ciboulette et puis un bol, un couteau, une cuillère et 2 verrines et une fourchette. Donc on va déjà commencer par écraser à la fourchette la chair de l'avocat qui est bien mûre. Vous allez l'arroser d'un demi-jus de citron. Et dans les 2 verrines, vous allez répartir la purée d'avocat que vous venez de faire. Vous réservez une partie pour une autre couche. Ensuite, vous allez couper environ 4 crevettes en morceaux. Donc, il vous en restera 2. pour la déco. Et ces crevettes qui seront découpées, vous les posez, vous les disposez sur votre purée d'avocat. Une fois que vous avez fait ça, vous écrasez et mélangez avec une fourchette le fromage blanc, la ciboulette ciselée, bien évidemment, et vous allez rajouter de la crème et ça vous fait un petit peu moins épais. Et dans les deux verrines, vous allez répartir le fromage frais et vous allez réserver une autre partie. Et enfin, vous mélangez la purée d'avocat avec le fromage blanc qui vous reste et vous répartissez dans les deux verrines la dernière couche. Et puis, pour décorer, vous mettez votre crevette entière. Si vous n'avez pas eu de crevette entière et que c'était que des décortiqués, vous la mettez dessus avec un petit brin de ciboulette et une rondelle de citron. Voilà. Et surtout, vous mettez au frais avant de passer à table. Ça, c'est super important. Voilà. Et il me reste 5 minutes pour vous présenter les verrines de sucrées, puisque maintenant on a les verrines sucrées à préparer. Et moi, j'ai préféré vous en faire que deux, puisqu'on a quand même le salé qui est assez important. Et comme je vous disais, on a aussi une partie au début qui est sucrée. Donc on va éviter de faire trop de sucre. Donc pour finir la pointe sucrée de notre apéritif dînatoire, donc deux verrines, une mangue coco. Donc vous aurez besoin de 20 g de sucre en poudre, de 2 cl de lait de coco, de 80 g de mascarpone, d'un jaune d'œuf, d'une demi-mangue, de deux palets bretons, d'une cuillère à soupe de noix de coco râpées. Et puis, vous aurez besoin d'une casserole, d'un bol, d'un couteau, de deux verrines, d'une cuillère en bois, d'un fouet et d'un économe. Allez, c'est parti pour les explications. À l'aide de votre économe, vous allez ou d'un couteau, vous allez éplucher votre mangue. Vous allez la couper en petits dés. Et si vous utilisez de la mangue fraîche, qui est en pleine saison maintenant, puisque c'est des produits exotiques qu'on trouvera uniquement en hiver chez nous, vous allez conserver le noyau et vous allez le mettre dans 20 centilitres d'eau avec 150 g d'eau, avec 150 g de sucre pour faire le sirop. Vous portez ébullition, comme ça la chair qui va rester sur le noyau va être dissous par l'ébullition et ça va parfumer votre sirop. Ensuite, vous allez pocher pour pocher les petits morceaux de mangue, rien de plus simple, vous les mettez dans un écumoir, vous les trempez 3 minutes dans votre sirop qui avait été porté à ébullition. Et vous mettez dans une passoire à laisser refroidir une fois que c'est 3 minutes. Donc j'espère que dans mes explications, c'est clair. Ensuite, dans un bol, vous allez mélanger le jaune d'œuf avec le mascarpone, le sucre et le lait de coco. Vous allez émietter grossièrement vos palets de breton dans les verrines et vous allez verser dessus une cuillère à soupe de sirop. Refroidi bien évidemment sur les biscuits. Et puis vous allez alterner une couche de préparation mascarpone avec les dés de mangue refroidis, saupoudrer ensuite de coco râpé et vous réservez 2 heures minimum au frais. Voilà, c'est un dessert qui est original, léger, rapide, que vous pouvez faire en grand format bien évidemment, et puis surtout facile à réaliser. Vous allez voir, ça sera vraiment une agréable surprise et puis par le résultat. On va continuer par notre dernière verrine. Notre dernière verrine pour cet apéro, on aura besoin donc de clémentine puisque c'était une verrine de clémentine chocolat et spéculoos. On aura besoin de 50 g de chocolat pâtisserie, d'une cuillère à café à soupe de crème fraîche, une clémentine de spéculoos, une cuillère à soupe de fromage blanc ou de chantilly, ça suivant votre goût. Moi, franchement, je préfère là, avec ce repas copieux, le fromage blanc sera plus apprécié. Et on va commencer déjà par éplucher nos clémentines et les couper en quatre. Donc, émietter les spéculoos et dans une casserole, vous faites fondre votre chocolat. Ça, si vous vous souvenez bien, on en a parlé la semaine dernière. Donc, votre
petite
chocolat,
ganache.
Voilà, la petite ganache qui va bien avec. Et avec la crème fraîche, vous laissez fondre, vous mélangez. Et dans les verrines, eh ben, c'est déjà pratiquement fini. Dans les verrines, on va mettre une couche de clémentine, un petit peu de chocolat, un petit peu de spéculoos, une deuxième couche de clémentine et on ajoute la pointe de chocolat. Voilà. Et enfin, et avant de servir, vous allez terminer par le fromage blanc ou la chantilly. Franchement, le fromage blanc avec du petit un quartier de clémentine par-dessus, ou vous mettez des paillettes de chocolat. Du vermicelle, c'est ce que j'allais dire, les paillettes de chocolat ou les vermicelles. Voilà, mettez des paillettes partout. Voilà. Et donc tout est prêt pour votre apéro dînatoire de Saint-Valentin, où l'amour de l'autre sera au rendez-vous. Alors l'amour de l'autre, puisque c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine.
Oui.
Voilà, cet apéro alors, n'est pas que pour la Saint-Valentin, hein, bien évidemment. Vous pouvez le refaire à d'autres occasions. À vous juste d'ajuster et de multiplier les doses, puisque là, aujourd'hui, on a fait ce repas pour deux personnes. Voilà, mais écoutez, notre émission, c'est très dur pour moi de faire un cocktail dînatoire pour une heure, parce que j'aurais voulu autant vous parler, mais on fera une autre émission pour un autre cocktail, à un autre événement, on verra. Voilà, notre émission, elle est touchée à la fin. Alors, je dirais, régalez-vous, soyez créative. On se retrouve la semaine prochaine, et même jour, même heure, pour un spécial Mardi Gras. On vous souhaite un très très bon appétit, une bonne soirée, et surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée.
Bonne soirée.